Nous allons voir l'histoire diplomatique complexe du Proche et du Moyen-Orient et les multiples conflits qui ont touché cet espace. Tout d'abord, juste un petit mot sur les conséquences de la fin de la Première Guerre mondiale. Elle va bouleverser le Proche et le Moyen-Orient, car entre les traités de Sèvres et de Lausanne, signés dans les années 1920, l'Empire ottoman est éclaté en de nombreux États. La Turquie, mais également l'Irak, la Syrie, le Liban, la Transjordanie. À l'exception de la Turquie, ces territoires sont confiés comme mandat à la France et au Royaume-Uni, c'est-à-dire en quelque sorte des colonies. Ils constituent les bases des actuels États du Proche et du Moyen-Orient et leurs frontières sont parfaitement artificielles et ne correspondent pas la plupart du temps à une réalité historique. C'est dans cette situation que le Proche et le Moyen-Orient entrent dans la guerre froide au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a marqué la décolonisation du Proche et du Moyen-Orient. Au plus tard, en 1946, l'ensemble des États de la région avaient pris leur indépendance, à l'exception des petits émirats du Golfe Persique, comme par exemple les Émirats Arabes Unis. L'influence américaine et l'influence soviétique remplacent rapidement les influences européennes au Proche et au Moyen-Orient. L'influence américaine s'accroît en particulier à mesure que diminue l'influence britannique. Par les accords du Quincy en 1945, les États-Unis deviennent les protecteurs du Royaume d'Arabie Saoudite. Vaste, disposant à la fois des lieux saints de la Mecque et de Médine et des plus importantes réserves de pétrole mondiales, ce royaume souhaite exercer un leadership dans le monde arabe. Mais, désertique et peu peuplé, il est soumis aux convoitises de voisins plus puissants. Les accords du Quincy lui offrent ainsi la protection américaine en échange de l'ouverture des champs de pétrole saoudiens aux entreprises pétrolières américaines. Les États-Unis contrôlent fermement la région au départ, par une série de traités et d'alliances. La Turquie entre dans l'OTAN en 1952, tandis que le pacte de Bagdad est signé en 1955. Cela doit vous rappeler le cours sur la puissance américaine quand nous avons évoqué la pactomanie américaine dans les années 50. Mais à la suite de nombreux coups d'État et des conflits régionaux, l'URSS parvient à attirer un certain nombre d'alliés déçus de la politique américaine. Il s'agit principalement de la Syrie et de l'Irak, mais également l'Égypte. Les crises et les conflits du Proche et du Moyen-Orient s'intègrent dès lors aux dynamiques de la guerre froide. L'enjeu géopolitique de la région est majeur. Elle fournit au bloc occidental l'essentiel de ses importations de pétrole. Par ailleurs, le canal de Suez demeure une artère vitale pour l'approvisionnement de l'Europe et de l'Occident en pétrole, mais également comme voie maritime rapide vers l'Asie orientale. Théâtre de la guerre froide elle aussi. Plusieurs interventions militaires étrangères ont lieu, comme à Suez en 1956, où interviennent la France et le Royaume-Uni, au Liban en 1958, il s'agit d'une intervention militaire des États-Unis, et puis bien entendu, en marge de notre espace, en Afghanistan en 1979. Il s'agit bien d'une tentative de l'URSS pour progresser dans l'espace moyen-oriental. Bien sûr, parallèlement, chacune des superpuissances arme ses alliés. À cette situation déjà assez complexe, se rajoute la question d'Israël et du nationalisme arabe. La naissance de l'État d'Israël ajoute un foyer de conflits supplémentaires au Proche et au Moyen-Orient. Ces conflits s'inscrivent tout d'abord dans la ligne des conflits qui ont opposé les communautés juives et arabes dans les années 1920-1930 en Palestine. Plusieurs guerres opposent ainsi Israël à la quasi-totalité de ses voisins. La première guerre israélo-arabe, de 1948 à 1949, l'expédition de Suez en 1956, la guerre des Six Jours en 1967, ou encore la guerre du Kippour en 1973. Ces conflits israélo-arabes déstabilisent tout le Proche-Orient. En effet, ils causent dès 1948 et au fur et à mesure des conflits, l'exil de 4,5 millions de Palestiniens. Installés dans des camps de réfugiés en Jordanie, en Syrie et au Liban, ils sont source d'instabilité politique pour ces États. En Jordanie en particulier, le régime du roi Hussein est menacé par l'Organisation de libération de la Palestine, née dans les camps de réfugiés palestiniens, et est dirigée par Yasser Arafat. En 1970, l'armée jordanienne expulse l'OLP de Jordanie au prix de combats qui font des milliers de morts dans les camps de réfugiés. C'est ce qu'on appelle le Septembre Noir. Installé au Liban, l'OLP contribue alors à la guerre civile qui ravage ce pays à partir de 1975. La lutte contre Israël est le principal moteur du nationalisme panarabe pendant toute la guerre froide. Le panarabisme est une idéologie laïque d'inspiration socialiste qui vise à unir tous les peuples de langue arabe de la région et d'Afrique du Nord également, donc à l'exclusion de la Turquie et de l'Iran. Mais pour souder des États par ailleurs très différents, il faut un adversaire commun, et Israël joue parfaitement ce rôle d'adversaire commun contre qui l'union pourrait se faire. Les principaux représentants du panarabisme vont être Nasser en Égypte, mais également les partis Baas en Syrie et en Irak, dont les principaux représentants vont être par exemple Saddam Hussein. Plusieurs tentatives d'unification du monde arabe sont menées, le plus souvent autour de l'Égypte, qui est démographiquement la plus importante nation arabe de la région. Toutes ces tentatives d'union sont des échecs, en raison des rivalités géopolitiques opposant les principales puissances arabes, l'Égypte, la Syrie, l'Irak et l'Arabie Saoudite, qui prétendent toutes faire l'union du monde arabe autour d'elles. L'échec du nationalisme panarabe va favoriser la montée de l'islamisme politique. Les principales puissances régionales du Proche et du Moyen-Orient sont, à quelques exceptions près, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, des républiques qui, sous l'influence de l'Occident ou de l'URSS, revendiquent une certaine laïcité. À la fin des années 60, les opinions publiques arabes leur reprochent leurs échecs dans la lutte contre Israël et leur soumission aux intérêts de puissances étrangères dans le cadre de la guerre froide. En Égypte comme en Iran, des mouvements politiques islamistes cherchent à renverser les gouvernements en place pour édifier des régimes politiques basés sur l'islam. En Iran, le gouvernement du Shah est renversé par l'ayatollah Khomeini en 1979, tandis que le président égyptien Sadat est assassiné par les frères musulmans en 1981. La naissance de la République islamique d'Iran constitue un phénomène géopolitique majeur. En effet, le Shah d'Iran est un allié fidèle des États-Unis. Le mouvement islamiste qui le renverse en 1979 est profondément hostile aux États-Unis, qui ont inféodé l'Iran à leurs intérêts et dont les multinationales pillent les ressources pétrolières du pays. L'Iran islamiste est également hostile aux États-Unis et à l'URSS pour des raisons religieuses, ces pays étant désignés comme des suppôts de Satan. La tension régionale issue de la naissance de cette république islamique s'aggrave encore l'année suivante lorsque l'Irak, soutenu par l'Occident comme par l'URSS, déclenche une guerre contre l'Iran qui durera 8 ans. Cette guerre s'achève sur un statu quo, aucun des deux adversaires ne parvenant à écraser l'autre. Néanmoins, le régime islamiste iranien demeure en place et va employer les décennies suivantes à accentuer son emprise sur la société iranienne. La fin de ce conflit coïncide plus ou moins avec la fin de la guerre froide, qui s'achève avec la chute du mur de Berlin en 1989. La conséquence de la fin de la guerre froide au Proche et au Moyen-Orient, c'est l'établissement d'une domination américaine presque exclusive. Effectivement, l'influence soviétique disparaît du Proche et du Moyen-Orient à la fin de la guerre froide. Les États-Unis se retrouvent sans réel adversaire dans la région, à part l'Iran, car la Russie est bien incapable de prendre le relais de l'influence soviétique. Néanmoins, la domination américaine est basée sur un ensemble d'alliés hétéroclites et souvent rivaux. Ses alliés sont peu nombreux. Il s'agit d'abord de la Turquie, relativement isolée sur la scène régionale, où elle fait localement figure en quelque sorte de puissance coloniale ennemie en raison du passé ottoman de la plupart de ces pays. La Turquie est membre de l'OTAN, laïque et occidentalisée depuis la naissance de la République turque sous l'autorité d'Atatürk. L'Égypte est un autre allié important, dont le gouvernement est le seul gouvernement arabe à avoir reconnu l'existence d'Israël depuis les années 80, mais dont l'opinion publique reste hostile à l'influence américaine et à l'existence de l'État hébreu. L'Arabie Saoudite, enfin, royaume à la doctrine religieuse particulièrement réactionnaire, on l'appelle le wahhabisme, aspire de son côté à un rôle de domination régionale grâce à l'argent qu'elle retire de ses exportations de pétrole. Enfin, Israël est le dernier allié sur lequel les États-Unis puissent compter dans la région. Tous ces États s'entendent très mal entre eux. Néanmoins, l'importance des enjeux géoéconomiques pousse les États-Unis à pacifier le Proche et le Moyen-Orient. En effet, il s'agit d'une région vitale pour l'économie mondiale. Le Moyen-Orient représente à lui seul 40% de la production d'hydrocarbures mondiale. Ses exportations de pétrole sont essentielles pour la plupart des pays européens, mais également de façon croissante pour la Chine à partir des années 90, ou encore pour le Japon. Elle représente également une part non négligeable de la consommation américaine jusqu'à l'émergence d'une production américaine de pétrole de schiste dans les années 2010. La stabilité politique de la région est donc essentielle pour les États-Unis et le reste du monde. Avec la disparition de l'URSS, les États-Unis disposent d'une large marge de manœuvre pour régler les conflits qui pourraient menacer la stabilité de la région et donc les exportations de pétrole. Ils s'efforcent de régler les conflits régionaux par la négociation ou par la force si nécessaire. La première guerre du Golfe, par exemple, en 1990-91, est une intervention militaire dirigée par les États-Unis sous mandat de l'ONU pour empêcher l'Irak d'annexer le Koweït, petit émirat pétrolier qui détient 3% des réserves mondiales de pétrole. Contre l'Iran, puissance un petit peu plus solide, les États-Unis utilisent l'arme du blocus économique depuis 1979. Enfin, les États-Unis se sont impliqués diplomatiquement pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien, aboutissant aux accords d'Oslo de 1993. Enfin, après les événements du 11 septembre 2001, le Proche et le Moyen-Orient sont devenus le lieu majeur de la lutte des États-Unis contre le terrorisme islamiste. Cette lutte se fait de façon indirecte, en soutenant des gouvernements alliés en lutte contre des mouvements terroristes islamistes, mais aussi par des interventions directes comme l'invasion de l'Afghanistan en 2001. Enfin, la lutte contre le terrorisme sert parfois de prétexte pour liquider de vieux adversaires, comme Saddam Hussein en Irak, lors de la deuxième intervention américaine en Irak en 2003. En dépit des interventions étrangères, américaines en particulier, ou peut-être à cause d'elles, les conflits persistent dans la région. L'une des principales causes récentes de déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient sont les printemps arabes. Les printemps arabes, nés en Tunisie fin 2010, sont des mouvements de contestation populaire qui touchent l'ensemble du monde arabe, du Maroc à l'Irak, dont les revendications portent sur la liberté, la démocratisation, la fin de la corruption et la lutte contre les difficultés sociales et économiques de la population. Ces mouvements ont amené la chute du dictateur égyptien Moubarak, par exemple. Ils ont poussé également le gouvernement jordanien ou koweïtien a effectué des réformes. Mais ces printemps arabes vont surtout causer une déstabilisation de grande ampleur dans leur versant syrien. En effet, en Syrie, la répression violente organisée par le dictateur Bachar el-Assad dégénère en guerre civile, où apparaissent toutes les fragilités et les fractures de l'État syrien. C'est une guerre civile entre des forces pro-démocratiques, ou en tout cas supposées l'être, et les forces militaires d'une dictature, mais c'est également une lutte entre les communautés kurdes et arabes, entre les communautés sunnites, chrétiennes et alaouites. L'effondrement de l'autorité du pouvoir syrien, jointe à la faiblesse du gouvernement irakien mis en place par les États-Unis lors de leur intervention militaire de 2003, fait que de vastes espaces du Moyen-Orient échappent à une autorité politique constituée. L'État islamique, appelé également Daesh, mouvement terroriste islamiste salafiste, en profite à partir de 2014 pour mettre en place un califat autoproclamé, à partir duquel il mène le djihad au Moyen-Orient, mais qui lui sert aussi de base de départ pour mener des attentats terroristes en Europe. L'ambiguïté dont certains États de la région font preuve à l'égard de Daesh, en particulier la Turquie et l'Arabie Saoudite, permet dans un premier temps à l'État islamique de prendre le contrôle d'environ la moitié de la Syrie et d'un bon quart de l'Irak. Les hésitations du monde occidental, les États-Unis et l'Europe en particulier, qui laissent Bachar el-Assad multiplier les crimes de guerre impunément et qui tardent à mettre en place une coalition capable d'éliminer Daesh, laissent le champ libre à des acteurs régionaux dont l'influence avait parfois complètement disparu de la région. La Turquie est le premier de ces acteurs. Elle est directement concernée par la guerre civile syrienne qui lui a valu d'accueillir 3 millions de réfugiés syriens. D'autre part, elle a une longue frontière commune avec la Syrie, et ses relations avec Bachar el-Assad sont particulièrement mauvaises. Par ailleurs, le développement d'un Kurdistan syrien autonome, appuyé sur le Kurdistan irakien qui est déjà autonome, est une source de déstabilisation pour la Turquie, où vivent la majorité des Kurdes de la région. Enfin, le président Erdogan est le porteur d'une idéologie néo-ottomane, en rupture avec les traditions kémalistes du pays, qui vise à développer l'influence turque au Moyen-Orient et en Asie centrale. Pour toutes ces raisons, la Turquie intervient de façon croissante dans le conflit syrien et occupe même une partie du territoire du pays. Cependant, elle se heurte aux intérêts de la Russie, principal allié de Bachar el-Assad et soucieuse de développer son influence dans la région qui avait disparu avec la chute de l'URSS. Profitant de l'irrésolution occidentale, Vladimir Poutine a octroyé la victoire à Bachar el-Assad grâce à l'importance de l'aide militaire russe. Actuellement, le gouvernement syrien est occupé à reprendre le contrôle des dernières enclaves contrôlées par ses opposants. À l'exception des territoires du Kurdistan syrien et des territoires occupés par la Turquie en Syrie, Bachar el-Assad a quasiment effectué la reconquête de la totalité du territoire syrien.